Eh bien, nous sommes en compagnie de François Lapeyrotte, auteur de l'écriture chinoise des eaux de dragon à Internet, 3500 ans d'histoire, paru aux éditions Cléa. Ce livre constitue une brève et très claire initiation à l'écriture chinoise par un spécialiste des écritures comparées, titulaire d'un DEA d'histoire des civilisations de l'université de Lyon 2. Alors, je vous précise le thème de ce DEA, l'hépatoscopie assyro-babylonienne, qui est, je suis sûr que vous ne savez pas, une technique divinatoire basée sur l'observation des foies de moutons prélevées après le sacrifice de l'animal. Et tout ça a été pratiqué entre le 18e et le 8e siècle avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Bon, ça me fait penser aux oracles grecs, ces histoires de foies de moutons, mais bon, on est un peu loin de la Chine. Alors justement, François Lapeyrotte, est-ce que cet intérêt pour les écritures anciennes, donc dont le chinois fait partie, passe par l'étude anthropologique des pratiques religieuses de l'Antiquité ?
Non, absolument pas.
Pas chez vous en tout cas ?
Absolument pas.
Mais cette histoire de foie de mouton tout de même ?
Ah, c'est pas tellement religieux, hein. C'est quelque chose qu'on observe dans pas mal de sociétés antiques et modernes, qui est un petit peu d'essayer de prévoir et d'envisager l'avenir et de conseiller les dirigeants politiques ou militaires pour les avertir d'un éventuel danger potentiel. Et donc c'est pas de la religion, hein. C'est une technique comme l'astrologie, le marc de café, les horoscopes. Ça répond à une certaine angoisse de l'avenir quand on est destiné à prendre des décisions.
Oui, on est plutôt dans la divination, on est plutôt dans quelque chose de... Bah c'est presque spirituel quand même, malgré tout, même si c'est pas une religion, c'est une croyance. Bon, alors du coup, c'est un petit peu pour ça que je liais les deux, mais...
On croit que l'observation des astres va nous prédire le numéro gagnant du loto, on croit que le foie de mouton va nous donner l'avenir.
C'est une question d'époque, voilà.
On croit qu'en Chine... En Chine, ils avaient une technique particulière, c'est les eaux de dragon, où avec un tison incandescent, ils provoquaient des craquelures sur l'os ou une carapace de tortue, et en fonction de ça, ils pouvaient prédire l'avenir. Mais c'est pas spirituel et ça devient scientifique. C'est-à-dire qu'en Mésopotamie, il y a des traités scientifiques qui font des tablettes qui sont très grandes, et ils disent s'il y a telle et telle chose, ça veut dire ceci, etc. Enfin, c'est scientifique, c'est plus scientifique que spirituel, puis c'est un business. Hein. C'est que le devin, il faisait pas ça gratuitement, donc hein, il avait besoin quand même d'une certaine référence.
Puis l'imagination humaine n'a pas de limite.
Exact.
Alors, quelle définition vous pourriez donner de l'écriture ? On va quand même partir des fondamentaux. C'est quoi une écriture ?
Alors, l'écriture, comme toujours, les experts ne sont pas d'accord.
Ça commence bien.
Il n'y a pas une définition. Moi, s'il y en a deux que je retiens, la plus simple, c'est de dire que c'est la matérialisation de la parole à l'aide de signes gravés sur un support physique. Et puis il y a une deuxième définition que je préfère et qui s'applique bien à l'écriture chinoise, c'est l'image de la parole.
C'est joli ça, surtout avec la Chine, ça va bien aller. Mais à votre avis, pourquoi les hommes ont éprouvé le besoin d'inventer l'écriture ? Parce que finalement, sans l'écriture, on s'en sortait aussi.
Non, on s'en sort pas.
Ah, expliquez-moi pourquoi.
On s'en sort pas. L'évolution des sociétés est très simple, hein. C'est-à-dire qu'au début, c'était des chasseurs-cueilleurs, et puis après, ils se sont sédentarisés, donc ils ont cultivé, ils ont aménagé la campagne, ils ont fait des surplus, ils ont échangé des produits, etc. Et puis, ça on le sait par Mésopotamie, parce qu'on a pas mal de documents, il est arrivé un moment où les gens se sont répartis les tâches, les gens se sont organisés dans une société, dans un village, dans une petite ville, et il fallait, en général c'était le temple ou le palais du roi, il fallait stocker, répartir les produits, acheter et vendre. Donc on n'a pas de... Il y a qu'en Mésopotamie, on connaît un petit peu l'origine, le pourquoi d'invention de l'écriture, c'est dans un but de commerce, de stockage, d'administration, d'organisation de la société.
Donc ça nous a permis d'évoluer. Alors on a parlé du commerce avec la Mésopotamie, mais finalement eux, les Chinois, ils ont commencé plutôt par la divination.
Non.
Non.
C'est-à-dire que les plus anciennes traces de l'écriture chinoise remontent au XVIe siècle et on les retrouve sur des carapaces de tortues et des omoplates de bovins pour leur technique de divination. Ça, ce qui ne veut pas dire, ce qui est absent n'est pas inexistant. Ah, et le gros problème qu'il y a dans l'histoire des écritures, c'est la question des supports. C'est-à-dire que quand vous avez pris l'habitude d'écrire sur du cuir ou d'un support putrescible ou du roseau ou du bambou, à partir de ce moment-là, votre support va disparaître. Donc on n'a pas de référence ancienne. En Mésopotamie, 3300 avant Jésus-Christ, dès le début, ils ont pris l'habitude d'écrire sur des tablettes d'argile. Et quand une tablette d'argile est cuite ou séchée ou cuite, elle est imputrescible. On la garde pendant 4000, 5000, 6000 ans. Donc on a un problème de support qu'on retrouve en Chine, qu'on retrouve en Inde, ce qui fait qu'il n'y a qu'en Mésopotamie où on a pu connaître l'évolution de l'écriture depuis ses tout débuts jusqu'aux dernières tablettes.
Ça veut dire qu'en Chine, on n'a pas pu.
En Chine, on n'a pas pu. Vraisemblablement, ils écrivaient sur du bois, sur de l'écorce, sur du bambou. Et tous ces documents ont disparu.
Alors c'est drôlement intéressant, cette histoire de support, parce que ça nous renvoie à l'époque contemporaine, où on se pose la question de la pérennité des supports sur lesquels nous mettons notre mémoire, et notamment tous les supports informatiques. Mais enfin, ça, c'est peut-être un autre sujet. Dans notre monde moderne, justement, on associe volontiers l'écrit à la mémoire. Alors que finalement, d'autres sociétés ont fait naître l'écriture pour un besoin de voir l'avenir, et plutôt que le passé. Alors que nous, nous l'avons associé au passé pour conserver. Alors c'est peut-être intéressant de voir pourquoi les choses ont changé.
Écrit et mémoire, bon, dans un premier temps, ils écrivent des stocks de troupeaux de moutons ou de céréales. Et puis, c'est un outil, une écriture, c'est rien de plus, c'est un outil. Donc à ce moment-là, cet outil a été récupéré par des gens qui voulaient faire de la poésie, voulaient écrire des mythes religieux, voulaient créer une religion, voulaient... Et ils ont utilisé cet outil, donc c'est devenu une mémoire. Mais l'écriture n'a pas été inventée pour transmettre les textes philosophiques aux fondateurs des religions. Si on réfléchit... les religions, la religion indienne, c'est 3500 avant Jésus-Christ. Socrate, Confucius et les philosophes grecs, c'est 5e siècle avant Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est 2000. Mahomet, c'est il y a 1300 ans. Grâce à l'écriture, on a pu avoir une transmission de leurs textes. Mais l'écriture n'a pas été inventée pour ça. C'était un à côté.
Oui, l'écriture a vraiment c'est un besoin, une utilité.
C'est un besoin, c'est une utilité. Alors c'est le grand débat entre les sociétés à tradition orale et à tradition scripturaire. Partant du principe au XVIIIe siècle, on considère qu'il y avait les sauvages qui n'avaient pas d'écriture et les autres, les gens civilisés. Il faut rester pratique. Hein. L'avantage d'une écriture, c'est que vous avez un document que vous pouvez conserver, que vous pouvez par la suite améliorer, en faire une exégèse. Mais vous avez une trace de la mémoire. Quel que soit le domaine. Donc c'est l'avantage de l'écriture.
Alors moi il y a une notion que j'aime beaucoup avec Régis Debray et les catégories médiologiques, c'est la logosphère et la graphosphère. Et moi je me demande si le fait de passer d'une société à transmission orale, donc de logosphère à la graphosphère, une société de transmission par écrit, qu'est-ce que ça change dans les rapports dans l'humanité?
Dans les rapports sociaux?
Dans les rapports sociaux.
Ah certainement. Certainement, même dans les rapports privés. L'écriture, c'est un acte privé, c'est une vente. Si le grand-père a vendu le terrain à son voisin, deux générations après, vous ressortez l'acte de vente sur votre tablette d'argile. On les a, on en a un nombre de références. Donc c'est un témoignage et vous ne pouvez pas revenir en arrière. La logosphère, mon grand-père a vendu au voisin, oui, mais enfin il n'y a pas de trace, allez hop, oui. On passe à autre chose.
C'est un changement total de société qui peut permettre la propriété, justement, qui peut permettre aussi les guerres. Bon, enfin ça, après, puisque...
Oh, il n'y a pas besoin d'écriture pour les guerres.
Non, c'est
je
vrai.
Sais pas.
C'est vrai, mais la propriété, ma foi, c'est quand même...
La propriété, les textes juridiques, les textes administratifs, les lois. Les lois, les traités internationaux. Le premier traité international, c'est en 2300 avant Jésus-Christ entre les Élamites et les Sumériens.
Ah, tout de même, ça remonte.
Et les Sumériens, c'est l'Irak, les Élamites, c'est l'Iran. Et il y a eu une guerre il y a 20 ans entre l'Irak et l'Iran. Le code du roi Hammurabi, c'est 1750 avant Jésus-Christ. C'est un code de loi, 150 sentences de loi. Donc c'était... organiser la société et montrer au peuple, à son peuple, qu'il y avait quand même des textes. Dans toute société, il y a le roi, il y a les textes de loi. Le gouvernement s'appuie sur des textes de loi.
Alors chez les Chinois, il y a l'empereur, on va revenir à la Chine. Aucune autre langue ne peut être aujourd'hui comparée à la langue chinoise. Elle est unique.
Comme toutes les langues.
Certes. Mais vous savez pourquoi je vous pose cette question.
L'écriture est unique. La langue, comme toutes les langues. La seule différence qu'il y a, c'est que le mandarin, qui est la langue officielle de la République populaire de Chine, est la langue la plus parlée dans le monde. Ça, c'est une caractéristique. Et ce qui est autre caractéristique de la Chine, c'est l'écriture. L'écriture chinoise qui est totalement différente de toutes les écritures du monde entier. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'écriture. Il y a l'écriture phonétique, c'est-à-dire que chaque signe correspond à un son. Donc il suffit de quelques dizaines de signes, des consonnes, des voyelles, des syllabes pour transcrire une langue. Et puis l'écriture logographique. Logographique, chaque signe a une signification. Les écritures phonétiques, quelques dizaines de signes suffisent, mais il faut connaître la langue. Si vous connaissez l'alphabet latin, vous pourrez lire un texte en allemand. Si vous ne connaissez pas l'allemand, vous ne comprenez pas le texte. L'écriture logographique des Chinois, plusieurs milliers de caractères, mais le grand avantage, c'est que si vous connaissez la signification des caractères, vous n'avez pas besoin de connaître la langue de celui qui a écrit le texte. Ça, c'est la caractéristique fondamentale, et c'est la seule écriture logographique qui existe dans le monde.
C'est un sacré paradoxe pour nous de penser qu'on peut lire un texte en comprenant ce texte sans en connaître la langue. C'est presque magique. On se dit, on apprend le signe et on comprend. Alors, on va soi-même comprendre, mais on ne va pas se faire comprendre de l'autre. Donc, ça change complètement notre manière de voir la communication, enfin, j'imagine. Et donc cette écriture logographique a unifié le pays, ça a été important politiquement.
Tout à fait, la Chine, même actuellement, il y a les Han, c'est-à-dire la majorité chinoise, ils sont 1,2 milliard en Chine. Il y a quand même encore 25 ou 30 dialectes, et lors de la constitution de l'Empire chinois à la fin du premier millénaire avant Jésus-Christ, il y avait certainement encore plus de dialectes, il y avait peut-être quelques centaines. Et le seul moyen de permettre à tous ces gens qui parlaient des dialectes sans intercompréhension entre eux, c'était d'avoir une écriture unifiée, reconnue par tout le monde.
Alors c'est intéressant cette histoire de logographique et de phonographique, parce que moi j'ai vécu cette expérience, mais c'était en Turquie, puisque justement Atatürk a mis un alphabet latin, en fait, pour le turc. Alors moi j'avais l'impression, et c'est tout à fait illusoire, on se sent mieux en Turquie effectivement que par exemple qu'en Chine, parce que notre environnement est familier, il y a des caractères latins. Mais ces caractères latins sont totalement incompréhensibles pour nous, parce qu'ils nous donnent des mots en turc. Donc cette familiarité supposée de l'environnement pour nous est en fait un faux semblant, puisqu'on ne comprend rien de toute façon. Donc, au moins les Chinois, on voit qu'on est, complètement ailleurs, et l'environnement graphique participe de cet ailleurs. Alors, on n'a pas parlé de quelque chose qui est important dans l'histoire, c'est la technique de l'estampage, qui a permis justement la transmission des textes anciens. Vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est ?
Alors, la technique de l'estampage, pour la transmission des textes classiques en Chine, ils avaient pris l'habitude de les graver sur des stèles. Et il y avait deux possibilités pour la diffusion de ces textes, soit de les copier caractère par caractère sur un morceau de bois ou du papyrus, un rouleau de soie. L'autre technique, c'était d'appliquer sur la stèle en pierre un rouleau de papier, bien le faire entrer dans les interstices entre les caractères. Dessus, vous mettez avec une encre noire, vous mettez de l'encre noire dessus. Et ce qui fait que quand vous retirez le papier une fois qu'il est sec, vous avez les caractères qui apparaissent en noir et les espaces entre les caractères qui apparaissent en blanc. Ça a été une des grandes techniques d'invention chinoise du 7e siècle et qui s'est maintenue tout le long de la tradition de l'histoire chinoise. C'est-à-dire que nous, on a été révolutionnés par l'imprimerie avec les caractères mobiles, que les Chinois n'ont pas tellement exploité, parce que 3000 caractères chinois avec des caractères mobiles, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et donc, ils ont favorisé plutôt l'estampage, et qui leur permettait d'avoir une copie exacte, ce qui est très important, et de faire une diffusion extrêmement facile.
Alors, c'est l'empereur, le fameux empereur de Xian, qui a laissé ses guerriers en terre cuite dans sa tombe, la Qin Shi Huangdi, qui a unifié l'écriture chinoise que l'on peut voir aujourd'hui, enfin, sans parler de l'écriture simplifiée, mais l'écriture chinoise qui a traversé les siècles.
Alors, Qin Shi Huangdi, c'est en 2230 avant Jésus-Christ, c'est le premier empereur chinois, c'est-à-dire c'est le premier homme politique qui, en Chine, a réussi à unifier le pays, qui auparavant était divisé en provinces, en autonomies, en petites royautés, principautés, etc. Et en 230 avant Jésus-Christ, il unifie le pays, il s'impose comme chef militaire, et c'est un administrateur, donc il décide de réformer les poids, les mesures, la largeur des ossiers des chars, les monnaies, etc., pour faire de son royaume un pays unifié et cohérent. Et il se retrouve face à des écritures chinoises qui existaient quand même depuis plus d'un millénaire et demi, qui ont des variantes en fonction des provinces. Droite, au nord, au sud, est, etc. Et il va charger son ministre de créer une écriture, une nouvelle écriture, qui doit être le standard de tout son empire. Et c'est son ministre Li Si qui crée 3000 caractères et qui devient l'écriture standard de tout le pays.
Alors, sans les lettrés et les mandarins, ce qui en fait la même chose, les choses ne se seraient pas passées de la même façon. C'est les lettrés qui ont été un peu les conservateurs de cette écriture.
Alors, les lettrés, dans un premier temps, étaient les conservateurs de toutes les variantes de ces écritures au premier millénaire en Jésus-Christ. Et l'empereur Qin Shi Huangdi, justement, est resté célèbre aussi dans l'histoire chinoise parce qu'il a voulu brûler tous les classiques, c'est-à-dire tous les anciens textes, pour éviter que ces variantes d'écriture persistent. Donc, les lettrés ont toujours voulu une haine tenace au cours des siècles et même encore maintenant. Et donc les lettrés se sont finalement adaptés, ont accepté cette nouvelle écriture standard pour toute la Chine. Et après, c'est eux avec les mandarins qui ont maintenu cette écriture tout au long des siècles sur des bases qui remontent à 2000 ans. C'est-à-dire qu'en 1911, quand l'Empire chinois s'est effondré et la République a été instituée, la première chose qu'on a fait, c'était de renvoyer les mandarins. Ils avaient une écriture qui était anachronique, et d'ailleurs une langue aussi entre eux qui n'était plus du tout une langue populaire. Donc au XXe siècle, la Chine a dû s'adapter au monde moderne.
Alors, un petit mot sur la calligraphie. Vous citez à ce propos l'empereur Li Shimin, au VIe siècle après Jésus-Christ, qui disait « Chaque mot s'envole comme dragon et phénix, chaque trait paraît gracieux comme un bambou qui s'agite au gré du vent printanier. » Il est vrai que nous, en Occident, on associe très très facilement la calligraphie avec l'écriture chinoise. Et moi j'ai l'impression que c'est peut-être la seule langue avec l'arabe à avoir développé un art à partir de l'écriture. Mais je me trompe peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres langues qui ont une calligraphie ?
Il y a des langues qui ont une calligraphie. Il y a le tibétain qui a une calligraphie. La calligraphie chinoise est un petit peu à part, parce que la calligraphie chinoise, d'abord il y a plusieurs styles d'écriture chinoise, qui pour une façon de représenter le caractère, donc ça c'est de la calligraphie. Et puis il y a la calligraphie, le caractère chinois qui devient une œuvre graphique, qui devient un tableau. Mmh. Et partant du principe que comme chaque caractère a une signification, vous pouvez le dessiner de la façon dont vous voulez, l'agrémenter et en faire une œuvre poétique finalement. Donc la calligraphie, la peinture et l'écriture, dans le chinois, c'est à peu près la même chose. Et donc les Arabes, effectivement, ont une calligraphie particulière, mais qui est une calligraphie beaucoup plus limitée que la Chine, puisque la Chine, caractère étant un objet, une signification, une pensée, on en fait après ce que l'on veut.
Une plus grande liberté. Alors, l'écriture chinoise, celle que nous la connaissons aujourd'hui, a failli disparaître. Et je reprends ici la citation de Mao en 1936, qui est dans votre livre, que j'ai trouvé vraiment fantastique. Alors, c'est pour ça que j'ai envie de la lire. Donc, Mao a dit « Nous pensons que l'adoption de l'alphabet latin peut réduire l'illettrisme. Les caractères chinois sont si difficiles à apprendre que la meilleure simplification ne sera pas suffisante pour une meilleure efficacité et enrichir le vocabulaire du peuple. Tôt ou tard, il faudra abandonner tous les caractères si nous voulons créer un nouvel ordre social où les masses auront leur place. Alors on peut dire que là, Mao aussi s'est complètement trompé, un petit peu comme sur le reste. Et que dirait-il aujourd'hui en voyant le développement exponentiel des instituts Confucius dans le monde entier qui vont à l'encontre de cette phrase sur le... Finalement, c'est pas si difficile d'apprendre le chinois.
Quelques remarques. Premièrement, Mao, il n'avait pas tort. Le taux d'analphabétisation, entre guillemets, en Chine, à son époque, était de 90%. 10% des gens qui savaient lire. Et Mao a dit, c'est pas possible, il faut quand même que tous les gens puissent lire et écrire. Donc il avait envisagé, effectivement, de remplacer les caractères chinois par l'alphabet latin. Le problème, c'est que la langue chinoise est une langue monosyllabique, il y a beaucoup d'homophones, et c'est pratiquement irréalisable dans la pratique. C'est-à-dire que si vous écrivez L-E-I en alphabet latin, il y a 12 significations en chinois. Donc c'était impossible. Ils ont gardé cette écriture qui actuellement comprend 9000 caractères, disons, officiels. Un lettré en connaît 5000, pour lire un livre on connaît 3000. Il y a une autre piste qui pourrait être envisagée par la suite, c'est de transformer ces caractères de logogramme en une signification en syllabes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, avec 500 ou 600 caractères chinois, on pourrait transcrire la langue chinoise. Donc ça, c'est une piste. Mais passer à l'alphabet latin, c'était une illusion. Je reviens sur les instituts Confucius. Il y a une chose qui me fait sourire. Bon, j'ai rencontré pas mal de Chinoises. Puis comme je suis médecin, j'ai rencontré pas mal de Chinois et de femmes chinoises. Et elles n'aiment pas Confucius. Elles ne supportent pas Confucius. Parce que Mao les a sortis de la cuisine et de s'occuper des enfants pour en faire les égales des hommes. Alors que chez Confucius, la femme était sous l'autorité du frère, du père, puis de mari, puis de la belle-mère. Alors, ramener Confucius, je pense que c'est bien pour l'étranger, de mari de Confucius, mais n'allez pas dire à une jeune fille chinoise que vous admirez Confucius. Elle va être folle furieuse.
Mais en fait, ça se discute parce qu'entre la société et la philosophie, finalement, c'est vrai que Confucius a peut-être une image de tradition un peu ringarde. Mais en termes de pensée, aujourd'hui, il paraît que ça revient un petit peu fort dans la société. Mais bon, bref, on va revenir à la langue parce que ce qui est intéressant, c'est la manière qu'a le chinois de s'adapter à la modernité et de créer des nouveaux mots. Comment il fait, le chinois ?
Alors, en Chine, des milliers de caractères et les Chinois ne veulent pas inventer de nouveaux caractères. Et ça depuis 2000 ans. Donc quand vous avez un mot nouveau, par exemple ordinateur, ben, vous êtes obligé de vous référer à des caractères qui existaient déjà. Donc à ce moment-là, vous allez piocher dans vos anciens caractères et puis faire une association qui vous paraîtra la plus logique et la plus symbolique. Pour ordinateur, vous allez prendre le caractère du cerveau et le caractère de l'électricité. Ça fait cerveau électrique, c'est l'ordinateur. Il y en a d'autres exemples dans mon livre que je n'ai pas en tête.
Il y a par exemple Google, hein, sans aucune publicité, qui se dit Valais et Champs. J'aime beaucoup le Carrefour, hein, qui est connu de tous les expats là-bas, qui se dit famille, joie, bonheur.
Alors ça, c'est une autre chose. C'est-à-dire que si vous voulez créer un mot nouveau, vous prenez des anciens caractères et d'une manière un petit peu poétique, bah, vous associez, je crois que le téléphone, c'est électricité, parole, etc. Le deuxième problème, c'est de transcrire, d'écrire avec les caractères chinois un mot étranger. Alors, là, vous avez deux possibilités. La première... Vous voulez écrire le nom de Monsieur Poisson ou Apple. Bon, c'est pas compliqué. Apple, vous prenez le caractère de la pomme. Monsieur Poisson, vous dessinez un poisson. Bon, tout le monde a compris. Maintenant, si vous appelez un autre nom mais qui n'a pas de signification, vous êtes obligé à ce moment-là de trouver des caractères chinois mais que vous prenez sous un sens phonétique. C'est-à-dire que vous essayez, dans la mesure du possible, comme carrefour, de trouver des caractères chinois qui se prononcent de cette façon-là. Donc à ce moment-là, quand vous parlez dans la vie quotidienne, vous dites carrefour, le chinois comprend que c'est carrefour. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme le caractère chinois a une signification, il veut dire quelque chose.
Voilà.
Et quand Coca-Cola a voulu s'installer en 1925 en Chine, ils ont demandé à être chinois. Écrivez-nous ça en chinois. Les Chinois ont dit pas de problème, on va vous écrire ça. Coca-Cola. Et les Américains étaient très contents, ça se disait très bien. Et puis il y a un Chinois qui leur a dit attention, ça veut dire quelque chose. Les Américains lui disent qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire simplement attacher le derrière d'une jument avec de la cire.
Ça fait pas terrible. Hein.
Voilà, les Américains disent non, vous changez ça. Et donc les Chinois ont un petit peu triché sur la phonologie et ils ont trouvé kékoukélé, qui veut dire quelque chose d'agréable dans la bouche.
Ouais, ça fait quand même mieux. Alors, pour en finir avec les caractères, on n'écrit pas les caractères dans n'importe quel ordre. Les traits ont un ordre, c'est important.
Tout à fait. En général, de l'extérieur vers l'intérieur, les traits horizontaux avec les traits verticaux. Et un caractère chinois, la moyenne des caractères chinois dans l'écriture moderne est de 8. Donc vous avez des caractères de 10 ou 8, 10 ou 15 ou 20 traits. Et il faut bien respecter l'ordre. Un chinois repérera tout de suite si l'ordre n'est pas respecté et c'est considéré comme une faute d'orthographe.
Et ce qu'il ne faut pas oublier de dire aussi, pour dire que finalement le chinois n'est pas compliqué à apprendre, c'est que la phrase est simple.
Très simple. Les mots sont variables, il n'y a pas de grammaire. Il n'y a pas de déclinaison, il n'y a pas de conjugaison, il y a très peu de temps. Pour indiquer le futur, on prend le verbe, l'adjectif, le caractère de demain. Pour indiquer le passé, le caractère d'hier. C'est d'une simplicité extrême.
Bon, ben, on va tous se mettre au chinois. Et d'ailleurs, ça a paru sûrement très simple aux Japonais et aux Coréens, puisqu'ils ont adopté l'écriture chinoise.
Malheureusement pour eux.
Oui, voilà, c'est ça. Les Japonais, j'ai l'impression qu'ils ont complexifié la chose.
Non, c'est que la langue chinoise est une langue invariable. Et quand vous déclinez ou quand vous conjuguez quelque chose, vous êtes obligé d'ajouter des caractères. Donc, les Japonais ayant une langue complètement différente de la langue chinoise, ils ont récupéré les caractères chinois, mais ils se sont rendus compte que ça ne suffisait pas. Donc, ils ont inventé ce qu'on appelle les kana, c'est-à-dire des signes phonétiques, comme nos voyelles ou nos syllabes ou nos consonnes, qu'ils rajoutent au caractère chinois pour préciser une fonction grammaticale, pour préciser le sens d'un mot, parce que le caractère chinois ne peut... L'écriture logographique chinoise ne peut survivre que si la langue est invariable et simple. Et dès que la langue est compliquée, c'est plus possible. Les Coréens, ils sont en train d'abandonner les caractères chinois, et les Vietnamiens, ils ont abandonné les caractères chinois depuis un siècle.
Bon, voilà. François Lapeyrotte, merci. Je recommande la lecture de votre petit livre rouge, L'écriture chinoise des eaux de dragon à Internet, paru aux éditions Cléa.